Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de notre village d'Unvislo. Nos podcasts existent pour vous inspirer et nous vous proposons à présent d'incarner vos aspirations par des expériences concrètes grâce à un abonnement au village. Tous les mois, et pour toute la famille, vous pouvez vivre dès à présent une vie qui respecte votre rythme naturel, vos besoins et incarne vos convictions. Pas de recettes ni d'injonctions et encore moins de culpabilisation, juste un accompagnement à incarner ce qui est essentiel dans votre quotidien. Une vie slow, douce et joyeuse, alignée sur votre essence. Bref, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unvislo.fr. Belle écoute! Le cercle d'une vie slow, la série qui vous inspire à incarner un nouveau monde. Pour changer de paradigme, nous avons besoin de nous nourrir autrement, d'entendre de nouvelles histoires. Ici, nous vous comptons nos graines d'inspiration et celles de nos invités. Soyez les témoins d'un nouveau possible, ici et maintenant. Je suis Chloé et vous écoutez les podcasts d'une vie slow. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du cercle d'une vie slow sur le sujet d'une vie permaculturelle. Je suis en joie de vous accueillir à nouveau ici, où le tout est possible s'expose et se partage pour vous inspirer dans votre vie slow. Permaculture, un mot que l'on entend de plus en plus pour évoquer la culture des sols, pourtant, c'est une vision globalisante de l'existence et des écosystèmes. Une méthodologie de gestion de projet qui allie expérience ancestrale et logique respectueuse moderne. Permaculture est une idée chère à nos cœurs, car une vie slow est directement inspirée de celle-ci. D'ailleurs, nous avons été qualifiés de permaculture relationnelle et familiale. Mon invité est libre et incarne cette compréhension qu'elle transmet aux futurs parents, parents et autres personnes attirées par cet art de vivre. Sylvaine Anani, cofondatrice de l'association Les Mains Sages Permaculture, et intervient dans l'accompagnement à la conscience du corps. Elle est aussi facilitatrice de projets permaculturels. Dans cet épisode, nous allons parler d'interconnexion, de laisser-être, de résilience et surtout d'enthousiasme. Je suis joyeuse de vous présenter cette femme qui m'inspire depuis longtemps dans mon chemin slow, car elle a mis des mots sur mes intuitions. Bonjour Sylvaine, bienvenue chez Une Vie Slow.
Bonjour Chloé.
Pour commencer, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et à nous parler un peu de ton parcours.
Ça va être un petit peu long.
Mais pas du tout, justement.
Pas du tout.
Prenons notre temps, c'est tout l'objet de notre rencontre.
Voilà, Sylvaine Anani et l'association dont tu as parlé, Les Mains Sages Permaculture, elle a été créée il y a à peu près 10 ans maintenant. Mm-hmm. Et en fait, moi, la permaculture, j'ai découvert ça, on va dire, plutôt il y a 18 ans. Déjà.
T'as vu, hein, le temps avance avec toi.
Voilà. Alors, je vais dire un peu moins de 18 ans parce que du coup, à l'époque, j'étais sur un terrain avec un compagnon. On avait un projet de vie en autosuffisance vivrière, voire aussi le projet de créer avec d'autres personnes une, on va dire, tribu entre guillemets intentionnelle. Donc, c'était un petit peu le démarrage, et puis par contre on n'y connaissait rien du tout à tout ce qui était agronomie, enfin culture et tout ça. Donc on a eu la chance d'avoir un terrain familial dans le Var à disposition, et puis aussi on vivait une partie du temps à la Martinique sur le terrain d'un couple d'amis qui n'avait pas trop le temps de s'en occuper et du coup qui était content de trouver des gens pour mettre en place aussi des cultures vivrières. Et en fait, du coup, forcément, au début, on a fait beaucoup d'erreurs. Voilà, on a essayé de faire classiquement ce qui se faisait, mais vraiment d'un point de vue, je veux dire, où t'as la terre à nu, où t'achètes des gros arbres,
ouais.
qui ont pas forcément les bons systèmes racinaires.
Avez vraiment découvert et ça a été vraiment une occasion d'apprentissage. Vous êtes lancé, en fait,
voilà.
C'est ça?
Ouais, ouais. Et vraiment, c'est en tâtonnant, en faisant beaucoup d'erreurs, en ayant beaucoup de galères, que voilà, en quelques temps, je sais plus comment, mais voilà, on est tombé sur ce mouvement de la permaculture, et là, on s'est dit, ah bah oui, non, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ça qui a du sens. C'est ça le projet. C'est ça le propos. Parce que la permaculture, ça englobe vraiment le fait de pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux des personnes. Donc quand on parle de besoins fondamentaux, il y a aussi bien les besoins vivriers, alimentaires, que le besoin d'avoir des relations saines, le besoin d'avoir un habitat sain pour les personnes et respectueux de l'environnement, en essayant de mettre en place des systèmes qui soient pérennes et résilients. Donc vraiment, tout ça, ça avait vraiment du sens pour nous, quoi. L'idée, c'était pas de faire un truc qui allait être dégradé en 4-5 ans ou qui allait toujours avoir besoin d'une présence et d'efforts qui n'avaient, entre guillemets, pas de sens, quelque part. C'était pas ça le propos.
D'où la résilience, en fait, de trouver, en fait, vraiment une co-création circulaire qui vous demande et en même temps une énergie juste. Comme le temps juste avec avec le slow, du coup.
Ouais.
Et en même temps, un rendement intéressant pour vous permettre de vivre, hein, parce que culture vivrière, c'était vraiment dans une intention d'être autosuffisant.
Oui, voilà.
En énergie et aussi en...
En alimentation.
D'accord.
Et puis, d'avoir du temps.
Voilà.
Pour soi aussi, de pas être esclave... Enfin, le mot travail, étymologiquement, ça vient d'une notion d'esclavage.
De se torturer les tripes, oui.
Ouais, voilà. Donc, voilà, nous, c'était vraiment pas le propos, quoi. On voulait pas être esclave d'un terrain, de nos arbres et tout ça. Le propos, c'était, voilà, de se dégager du temps pour aussi vivre, se faire plaisir, faire de la musique, chanter, danser, dormir, prendre du temps pour soi, pour les personnes qu'on aime, enfin.
Faire l'amour et tout ça, quoi.
Voilà. Donc, vraiment, moi, j'ai vraiment bien accroché avec ce concept de permaculture parce que donc les fondateurs qui sont australiens, Bill Mollison et David Holgren, dans leur livre que je considère moi être le livre de base, Permaculture 1 et Permaculture 2, ils décrivent déjà tout ça en fait. Il y a déjà tout ce projet sociétal, j'ai envie de dire.
Et oui.
De vraiment faire les choses en caricaturant, c'est ça, avec le moins d'efforts possible, mais d'être le plus efficient possible pour vraiment créer des sociétés qui soient réellement soutenables et heureuses.
Moi, ce que j'aime beaucoup avec la permaculture et justement toute cette vue de Bill Mollison et de David Holmgren, c'était vraiment les éthiques. Tu en as un tout petit peu parlé en commençant, qui sont partagées équitablement, respecter l'humain, respecter les animaux.
La terre et
le vivant, quoi, de manière générale. Pour moi, c'est vraiment les trois éthiques. Et c'est vrai que quand on y songe, quand on y intègre un peu ça en soi, ça devient organique, en fait. C'est juste du bon sens, le respect, le partage, parce qu'on a besoin de vivre ensemble, en fait, avec le vivant, avec ce qui vit, ce qui s'exprime.
On a besoin, et de toute façon, ça se fait comme ça.
Oui.
Quand on parle, par exemple, des fois au niveau du jardin, et puis que les gens, ils me disent « Ah oui, mais là, j'en ai trop, mais comment est-ce... » Pour moi, dans ma tête, on va dire qu'il y a trop. Il y a trop par rapport à quel concept, en fait. Il y a trop, peut-être pour toi, mais en fait, il y a des animaux qui vont venir manger. Enfin, en fait, on participe de ça. Le chêne, il se dit pas « Ah, j'ai fait trop de glands cette année. » Enfin, voilà.
Et oui.
Donc,
ça part vraiment d'un côté égoïste, en fait, dans le sens où on est vraiment juste autour de notre propre consommation. On n'est encore pas dans l'interaction avec le vivant.
Oui, voilà.
Avec l'ensemble.
Avec l'ensemble. On fait partie de l'ensemble, quoi. Donc, on fait avec cet ensemble-là. Donc, effectivement, partager les surplus, ça se fait. C'est vrai que des fois, sur des présentations de la permaculture, je mets des photos avec les enfants et... il n'y a jamais trop d'amour avec un enfant. Enfin, l'enfant, il est là, il partage tout l'amour qu'il a, et en cas, si toi, t'es pas disponible à ce moment-là, ça va profiter aux voisins, au grand-père, à la grand-mère, enfin, voilà, dans l'idée, c'est ça, partager les surplus. Enfin, moi, dans mon idée, j'ai pas eu mon fils que pour le garder pour moi, enfin, ça a aucun sens. Il est joyeux, il est dynamique, il est très tonique.
Il est heureux, quoi.
Je vais pas dire hyperactif, il est juste très, très enthousiaste. enthousiaste, quoi. Bon, bah, moi, des fois, j'ai pas la capacité de suivre tout cet enthousiasme, mais bah, tant mieux, il va le partager avec d'autres personnes, et, ouais. Et voilà, donc, il y a jamais de trop. Donc,
quand on parle de vie permaculturelle, on parle, pour moi, vraiment de vivre ensemble, de manière, justement, efficiente. On est un peu passé rapidement sur ce mot. Mmh. Efficiente, c'est vraiment différent de efficace. Mmh. Efficace, c'est dans le sens productiviste, alors que efficient, c'est dans le sens soutenable.
Oui.
Dans le sens plein, tu sais, dans le sens possible. Il y a aussi
j'ai envie de rajouter dans le sens où on a pris soin. C'est quelqu'un qui m'avait fait la remarque, parce que je disais le terme efficace, et puis voilà, en discutant avec la personne, j'ai vraiment compris, et puis en allant voir aussi les définitions, du coup, après, oui. Par curiosité. Il y a efficacité, l'objectif c'est d'aller au point B, bon bah on y va, quels que soient les dommages collatéraux,
et oui.
Entre guillemets.
Et oui.
Alors que dans la notion d'efficience, on a pris soin entre-temps. On va du point A au point B, mais en ayant fait attention à ce que ce soit vraiment juste pour nous, à ce qui ait le moins d'impact possible sur notre environnement, l'environnement au terme de les écosystèmes naturels, et puis les personnes aussi qu'il y a ouais. autour. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le terme, effectivement, que je considère le plus juste, l'efficience.
Oui. Il y a aussi cette notion d'écosystème qui revient beaucoup avec la philosophie de la permaculture. J'associe ça vraiment à une philosophie et à une méthodologie de gestion de projet de manière générale. Pour moi, c'est vraiment quand on parle de permaculture et qu'on me dit « mais tu sais quoi, la permaculture, c'est vraiment comme ça que je le partage dans un premier temps et après, on va plus loin. Mmh. » Il y a vraiment voilà cette notion d'écosystème. Est-ce que tu saurais parler de ce mot qui revient beaucoup lorsqu'on parle de permaculture?
L'écosystème, pour moi, c'est que on n'est pas seul. C'est qu'on va mettre en place un outil, un projet, que ce soit un bâtiment ou un lieu de vie individuel ou collectif, mais que ce projet, il va forcément être intégré déjà au milieu où on va l'implanter. C'est-à-dire que le projet que je vais mettre en place sur la Côte d'Azur en bord de mer, ça ne sera pas le même que un projet qu'on va mettre en place sur la Côte d'Azur, mais dans l'arrière-pays, en milieu plus ou moins montagneux, avec l'altitude, des hivers plus rigoureux, tout ça.
Bien sûr.
Pour moi, la notion d'écosystème, du coup, ça invite vraiment à penser qu'on est intégré aux lieux, aux pratiques, aux cultures aussi, des personnes qui sont là, en fait, et qui ont toute une histoire. Mmh. Et du coup, qu'on va pas débarquer comme ça en faisant table rase de tout ça et en venant avec des grandes idées, des grands principes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on va respirer ensemble. Et l'idée, c'est d'arriver à un endroit, en ayant le moins d'impact possible et du coup, en faisant que, on arrive dans un endroit qui a déjà eu son histoire, qui a sa topographie, qui a son système hydrique et tout, et qu'on va venir et prendre en route une respiration, en fait. Et du coup, on est lié.
Et oui.
Les écosystèmes naturels, c'est ça, c'est qu'une forêt, dans un biotope donné, il y a les animaux qui vont avec, il y a les insectes qui vont avec, il y a les champignons mycorhiziens qui vont avec, il y a les arbres, arbustes, arbres de canopée, enfin, voilà, c'est une entité, même si après, tout est lié de manière plus globale, et en même temps, quand on fait le focus, il y a une marque par rapport à l'endroit précisément qu'on est en train de regarder. Pour moi, la notion d'écosystème, c'est ça.
Ça s'exprime aussi, du coup, dans les groupes humains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écosystème. Moi, j'associe ça avec écologie, système. Une écologie, c'est un ensemble d'organismes mmh. vivants mmh. et systèmes qui ont un ordre donné mmh. avec, un fonctionnement qui avec une certaine protocole.
Ouais.
Et il y a trouver justement l'écologie, l'identité, l'ADN de ces systèmes et du coup pouvoir rendre vivant et danser avec. Moi j'aime bien parler de danse.
Oui. Que...
pour moi la vie ce n'est que mouvement, donc c'est pour ça que je parle de danse aussi. C'est justement être en mouvement avec. Mm-hmm. Quand on sait que quand on est en mouvement on danse et que la vie c'est donc une danse. Signé Chloé Blain-Maginot. Mais voilà, pour moi, il y a aussi cette notion-là, en fait, d'écosystème. C'est pour ça que lorsqu'on parle notamment d'une vue permaculturelle sur la vie, sur les relations, vous allez souvent entendre en fait ce mot écosystème.
Oui.
Pour nous, ça devient totalement en fait naturel de parler comme ça, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler écosystème, pour lui, on est en train de lui parler de la forêt.
Oui.
Alors
mais
que non,
bien
pas
sûr.
Du tout. C'est vraiment des entités. Hein.
Oui.
Un écosystème, c'est une entité qui a un fonctionnement bien particulier.
Ouais. Bah au niveau humain, j'ai presque aussi envie de dire, c'est une culture. Et du coup, ce que j'aime dans la permaculture, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre du coup ces éthiques-là dont t'as parlé au début, les principes qui eux aussi sont universels.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le truc qui pour moi, enfin les deux trucs qui sont vraiment hyper importants à comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont réplicables partout sur la Terre. Donc éthique et les principes, il y en a une dizaine. Les classiques qu'on trouve sur internet, c'est les 12 principes de David Holmgren, et puis après, selon les auteurs, il y en a plus ou moins un grand nombre, mais voilà, globalement, ils se recoupent. Et ça, c'est universel, c'est-à-dire que quel que soit le groupe humain dans lequel on va vouloir intervenir, avoir ces éthiques et ces principes, ça va être fondamental pour pouvoir accompagner, designer, mettre en place un projet. Et puis après, il y a des techniques, et c'est en ça, pour bien avoir en tête la notion d'écosystème humain, pour pouvoir appliquer la bonne technique. Parce que, sans vouloir critiquer les missions humanitaires, hein, je veux dire, ça, quelque part, ça a beaucoup de sens et tout ça, mais juste d'être vraiment vigilant aux techniques qu'on va apporter. Parce que pour certains écosystèmes, pour certains groupes humains, ça n'aura pas de sens. Donc tant que des personnes extérieures à ce groupe viendront avec des techniques sans avoir pris le temps d'observer, qui fait partie d'un des principes de base, l'observation, observer et interagir. Donc, si on débarque sans avoir pris le temps de faire cette phase d'observation, et juste on débarque avec une technique, ça ne matchera pas, parce que ça n'aura pas eu de sens pour cet écosystème humain-là, pour ce groupe de personnes-là.
Alors, on peut vraiment le décliner aussi avec la famille, avec les relations, tout simplement dans son cercle plus proche, hein, sans parler de missions humanitaires ou de culture des sols. Il est vraiment important, en tout cas pour toi comme pour moi, de rediffuser, en fait, en France notamment, le fait que la permaculture n'est pas qu'une technique, entre guillemets, de culture des sols. Elle est bien loin de là. C'est vraiment une vue globalisante de gestion d'écosystèmes et du vivant. Et d'interaction avec le vivant. Et on peut donc se rendre compte que ça fonctionne dans tous les domaines. Dans un projet professionnel, dans un projet familial, dans un projet de couple, dans un projet de communauté, du coup, pour pouvoir vivre ensemble, etc. On se rend compte, encore une fois, que bien sûr, il existe des outils formidables qui fonctionnent, qui ont fait des preuves, etc. Et notamment dans la parentalité... Souvent, on s'intéresse beaucoup à la technique, à l'outil de comment on va gérer les émotions. Par exemple, au hasard.
Oui.
Avec toute notre belle intention, on va se dire, bon, alors là, il faut que je lui apprenne à gérer une émotion. Avec une intention, avec du coup, une espèce d'intrusion aussi dans cet écosystème dans lequel on veut s'intégrer. Et du coup, on prend pas le temps d'aller regarder ce qui se vit, nous, quelle est la nature de notre intention, pourquoi on se met en mouvement, qu'est-ce qui fait que la gestion, entre guillemets, des émotions est importante pour nous, à transmettre ou pas, est-ce que nous, on est capable de pouvoir aussi transmettre cet outil-là, et pourquoi on utilise cet outil-là, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu nourrir totalement ce que j'ai pu partager et transmettre autour de d'une parentalité slow. Et c'est pour ça que je dis vraiment une parentalité slow, en fait. C'est grâce à cet aspect de la permaculture que j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas la parentalité slow, qu'il n'y avait pas la parentalité bienveillante, qu'il n'y avait pas la discipline positive, qu'il n'y avait pas plein de choses, mais qu'il y avait vraiment une intention, et qu'après, à l'intérieur de ça, chacun pouvait créer ce qui lui correspondait, et qui correspondait du coup à son quotidien, à son écosystème. Et c'est pour ça qu'il me paraît important aujourd'hui de parler de permaculture sous cette forme-là, et qu'il est important pour moi que les gens puissent entendre que on peut s'inspirer de ça, on peut s'appuyer sur ces choses-là. Après, principe, attention, hein, Isabelle Filioza disait, les principes, c'est avant de réfléchir. Et des principes aussi, c'est, tu parlais de fondamentaux, en fait. Les fondements, pour moi, ce sont les fondations. C'est vraiment là où on peut se dire, ok, on peut s'appuyer.
Dans la permaculture, ce qu'on appelle besoins fondamentaux, oui, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer, mais Parce que si ça n'est pas là, tu ne vis pas.
Voilà.
C'est vraiment, tu vois, manger de la carouba, c'est pas un besoin fondamental. Par contre, avoir accès à une alimentation saine, oui, c'est fondamental parce que c'est une question de vie, en fait. Si on ne s'alimente pas correctement, ben, tout bêtement, on est malade, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait, même si on le fait pas tous, mais en tout cas, on le sait qu'on peut pas, il y a même eu un documentaire là-dessus, le mec qui a mangé du McDo pendant, je sais pas, X jours et bon, bah, voilà, on tombe malade, quoi. Donc, besoin fondamental, c'est vraiment, presque, j'ai envie de dire, vital. Et c'est en ça aussi que la permaculture balaye vraiment tous ces aspects, parce que au niveau humain, nous sommes des êtres sociaux. À part certaines personnes qui sont capables de vivre comme des ermites, il y en a, mais on n'a pas tous cette aptitude-là. Et fondamentalement, dans nos cellules, on n'est pas fait pour vivre seul. En fait, on est fait pour vivre en relation, on est fait pour vivre dans un village, quoi.
Eh oui.
Dans un village où chacun se porte, où on comprend, où on se parle, où on s'écoute, où on prend le temps de s'observer. Et c'est vrai que en ça, j'ai bien aimé votre concept du slow, parce que même moi, en disant toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes intentions, je me rends bien compte que j'y suis pas encore dans le slow. Et vraiment, ce principe-là, pour moi, c'est le premier. Il y a aucune hiérarchie dans les principes de la permaculture.
C'est ça qui est intéressant.
Il y a aucune hiérarchie, mais pour moi, il y en a une.
Attention, là, c'est Sylvaine.
Voilà, là, c'est Sylvaine qui vous dit que le premier principe, c'est observer. Pour moi, c'est... Mais c'est parce que je fais le recoupement avec ma formation de base qui est par rapport au corps. Et pour moi, avant tout, je suis là, j'observe et j'écoute. Avant de venir avec une technique en disant bam, 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 on va faire comme ci, comme ça. Non, c'est se taire, laisser être les choses, laisser faire les choses pour essayer de comprendre. Et après, on va agir avec tout ça et faire en sorte d'optimiser tout ça. Et voilà, le fondement, il est là aussi.
Ce que j'ai beaucoup appris grâce à la permaculture, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est le côté « je ne suis pas obligée de faire ou d'être en action, je vais d'abord m'asseoir et je vais observer avec humilité ». On a tendance à faire beaucoup de choses par volonté, parce qu'on désire des choses, parce qu'on veut, parce qu'on est dans l'immédiateté, parce que notre mouvement de notre air peut être aussi très accéléré. Et on peut être vraiment dans ce plaisir immédiat, dans cet accomplissement immédiat. Or, si on regarde l'existence, lorsqu'on plante une graine, notamment, elle ne pousse pas d'un coup.
Non.
C'est pas les haricots magiques. Donc c'est vrai que il y a vraiment cette notion du temps juste, en fait, et de trouver cette humilité dans ce temps juste et du coup cette observation. Et ça rejoint pour moi aussi un acte spirituel, qu'on parle aujourd'hui beaucoup de méditation, de contemplation dans plusieurs religions. Je fais le distinguo entre spiritualité et religion. Du coup, dans certaines religions, on peut se rendre compte que en fait, il y a la prière, il y a le recueillement, il y a etc. Et je pense que c'est pas anodin si on regarde pourquoi on aurait besoin d'avoir ce temps-là. Ben parce que on a besoin en fait d'apprendre de ce que la vie nous enseigne et savoir se dire ben là en fait, je ne sais pas. J'ai besoin de prendre du temps pour connaître. Et pour me mettre en mouvement de manière juste, autant juste, je pense que la vie serait beaucoup plus douce pour chacun. Et c'est ce que la permaculture aujourd'hui nous permet. Et notamment le slow aujourd'hui nous invite vraiment à ça. Et c'est pour ça notamment que dans la méthodologie que j'ai développée dans le livre avec pour vivre une parentalité slow. Attention, hein, quand je parle de parentalité slow, je parle de la vie. Hein. C'est comme la permaculture, c'est pas une culture des sols.
Oui.
C'est juste une interaction, en fait, et une occasion, du coup, de le vivre en famille. Mais on est encore en train de vivre, en fait.
Et ouais.
Et du coup, je parlais de temps juste, et c'est pour ça qu'en 5 temps, moi, je l'ai développé avec ROC, ralentir, observer, conscientiser, choisir, et puis célébrer, faire acte de célébration, d'honorer. Et c'est vrai que, en fait, on se rend compte que trouver cette humilité-là, en disant, ben, c'est pas le temps juste. Oui, j'ai la volonté. Oui, j'ai l'intention. Et je vais réussir à offrir cet espace, en fait. Recréer cet espace pour vivre ce qui est juste et mon intention. Elle est légitime, cette intention, puisque c'est mon aspiration. Et si je respecte ce vivant-là, eh bien, ça me permet de vivre en accord avec tous les écosystèmes.
Et aussi, j'ai envie de rajouter, quand on prend ce temps-là, de ralentir et puis d'observer, on se donne la possibilité aussi de réajuster. Et justement, on sort de la volonté.
Voilà.
L'intention, on reste dans le projet, plus ou moins, à plus ou moins long terme, il est là. Et en fait, on se donne la possibilité de réajuster. Parce que, comme tu le disais aussi à un moment donné, dans la vie, tout est mouvement. Et j'allais dire, c'est important, mais c'est même pas une question d'importance. C'est inévitable de savoir se réajuster. Parce que on n'est pas le créateur. On fait partie de la création. Et il y en a un qui sait. Et nous, il y a des choses que forcément, on n'aura pas prévues.
Ouais.
Mais celui qui sait, là-haut, il va nous les mettre sur le chemin, ces imprévus. Et là, on va se dire, ah ouais, mais moi, j'étais là avec mon beau petit plan et tout machin. Bah ouais, mais non, en fait, je suis juste une créature de ce grand tout. Et du coup, quand on va étape par étape et qu'on prend le temps de se poser, on se donne la possibilité de réajuster et de voir si c'est toujours OK pour nous, de voir si c'est toujours OK pour notre famille, voir si c'est toujours OK pour nos enfants et de repartir dans un nouveau mouvement. Et c'est pour ça que dans la permaculture, on parle vraiment des étapes de conception d'un projet, hein. Il y a vraiment, ça fait partie aussi des étapes qui sont assez universelles, j'ai envie de dire, à respecter. Il y a vraiment ce cycle où, pour atteindre un objectif, j'ai envie de dire une réalisation, on va vraiment passer par d'abord cette phase d'observation, une phase où on va récupérer des informations, récolter des données, et encore une fois, en toute neutralité, et ça, c'est vraiment difficile,
ah oui,
hein, d'être neutre, c'est-à-dire juste, on est vierge de tout, et juste, on récolte. Ouais. Et bah déjà, ça, amusez-vous.
C'est un sacré exercice.
Récolter sans jugement, sans a priori, juste, on fait un état des lieux. Et déjà, quand on s'exerce à ça, déjà, ça fait cheminer, parce que on peut pas s'empêcher, enfin, je le vois dans les ateliers, les gens, je leur dis, juste on fait un état des lieux, bah, ils sont déjà dans la projection, quoi.
Et
ils
oui.
vont me récolter 2-3 infos, et puis, tout le reste, ça aura été que de la projection. Non, juste, on récolte des infos. Après, ces infos-là, on va les placer. On va soit les écrire selon le projet, ou sinon, on va faire des calques, si on veut concevoir un écolieu, une ferme, quoi, machin. Et puis, une fois que ces calques sont posés, on va commencer à mettre en place, à sélectionner aussi, étape par étape,
ouais.
pour être dans une phase de réalisation, mais pas rentrer à fond dans une phase de réalisation générale.
C'est ça.
On va procéder petit bout par petit bout en fonction des capacités et des réalités du moment. Et quand il y a une étape qui est finie, on va prendre ce temps d'observer, vous appelez ça célébrer, et c'est vrai que j'aime bien cette notion-là, parce que c'est vrai que en tout cas, moi, je me rends compte que je prenais pas ce temps de célébrer, de dire « Ah ouais, ok, je veux aller là-bas, mais n'empêche qu'il y a déjà eu tout ça de fait. Allez, c'est cool, on va faire une petite danse pour célébrer. »
C'est ça.
Bon, maintenant, je le fais de plus en plus. Hein.
Eh oui,
j'ai fini ma compta. Ouh, célébration.
Oui, parce que faire sa compta, c'est vraiment génial.
Ah ouais. Non, faire sa compta, pour moi, en tout cas, c'est pas génial. Mais en tout cas, d'avoir réussi à la
voilà.
faire. Waouh, mais là, faut célébrer. Hein.
Mais oui.
Je célèbre plusieurs jours.
Non, mais c'est hyper important, en fait, cette notion d'honorer le mouvement et une certaine forme de courage, encore
oui.
une fois, de persévérance dans l'effort, de continuer à persévérer, même si c'est pas confortable, et du coup, de se dire... Non, mais j'y vais parce que c'est pas confortable, mais c'est important pour mon projet, pour mon bien-être, pour l'équilibre de mon écosystème. Et du coup, pour, le fait de vivre comme ça est important pour moi. Comment je peux me mettre en mouvement pour vivre ça? Eh ben, parfois, ça passe par faire de la compta, quoi.
Oui, voilà. On passer par là. Ou avoir un bon comptable.
Voilà, exactement. Parce que du coup, on s'est mis en mouvement pour pouvoir le vivre correctement.
Et oui.
Et moi, je fais vraiment le distinguo entre le divertissement et la célébration.
Ah oui, oui, oui.
Qui est
bien
vraiment
sûr.
Pour moi très important parce que, notamment, c'est aussi avec cette notion de permaculture, en fait, de respect du vivant, d'honorer le vivant. Parce que c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas dû, en fait.
Non.
Hein? C'est là et c'est extraordinaire. Et parce que c'est extraordinaire, je l'honore.
Mm.
Je le remercie d'exister et de m'offrir ce extraordinaire, en fait.
Mm.
Et le fait d'honorer, pour moi, c'est savoir remercier, savoir reconnaître quand on s'est trompé aussi, quand on a fait des erreurs, les galères dont tu parlais, les erreurs, etc. Mais en vrai, on sait que ces erreurs ne sont pas vraiment des erreurs.
Non.
C'est des occasions, des opportunités qui nous ont permis de nous réaligner sur les projets qu'on fait. Et du coup, merci. Merci, honorer les personnes qui ont participé à la réussite de notre mouvement, etc. Et j'ai la sensation que ça densifie les relations, ça densifie aussi notre morale, notre bonheur, notre motivation. Et ça, Pour moi, c'est respecter l'humain, c'est respecter la nature et c'est partager équitablement, en fait. On revient encore une fois aux éthiques.
Aux éthiques, ouais.
Et pour moi, c'est ça aussi ce qui rend un écosystème efficient. Parce qu'il est autosuffisant, en fait. Il est résilient et autosuffisant parce qu'il passe par toutes ces étapes-là.
Ah ouais, bien sûr, ouais. Et j'aime bien quand tu fais la différence là entre célébrer et...
Et se divertir.
Oui, et se divertir. Parce que j'entends vraiment cette notion où on va, dans la célébration, on va vraiment ancrer quelque chose, quoi. Voilà. Et ce quelque chose, ça va vraiment servir d'apprentissage et ça va être une réelle force pour la suite.
On engramme, et... quoi, tu
oui.
sais, dans tes cellules.
Oui,
du
oui.
Du coup, tu deviens plus... compétent, quoi.
Ben, on pose nos racines.
Ouais.
Ben ouais, c'est intéressant parce que ça me fait penser à, aux découvertes à l'époque que j'avais faites sur, oui, l'importance des systèmes racinaires. Si tu mets pas les bonnes graines aux bons endroits au bon moment, ou si tu ne laisses pas la possibilité aux arbres que tu vas acheter d'aller faire ce système racinaire, ils seront jamais résilients. Ils vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte, ils seront toujours, entre guillemets, assistés, en souffrance et tout ça. Alors que quand on aura bien travaillé en amont ce système racinaire, quitte à pas voir la partie émergée des arbres, mais il y a un moment donné, cette partie émergée, elle va sortir avec une puissance et une force qu'on n'imagine pas. Nous, on a tendance à dire que, enfin, c'est pas nous, mais dans la nature, les processus, ils sont pas linéaires. Et en fait, c'est ça. Célébrer, c'est vraiment se donner le temps de travailler ce sous-sol, d'engrammer les choses, comme t'as dit, pour que on puisse accéder ensuite à une réelle pleine puissance. Et du coup, ça me fait aussi penser à, j'ai envie de dire, quand mon fils était petit.
Mais ouais, ben oui, non mais...
Mais oui, parce que maintenant, il va avoir 11 ans, donc...
Ouais.
Mais ces remarques de personnes qui me disaient, oui, mais bon, ça fait long, là, comme allaitement, ce que tu fais, oui. Et puis, ah ouais, tu fais encore le cododo, mais ça fait long, ça aussi, tu sais, il va jamais te quitter, hein, il va toujours vouloir rester avec toi et tout ça. Et... Mais en fait, j'allais dire, je sais pas d'où ça me venait, mais
si.
Si, je sais. Mais on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Non,
c'est ça.
On va déborder. C'est-à-dire que il y a quand même un truc, il y a quand même des choses que j'ai vécues qui font que j'ai des choses comme ça qui me viennent de manière intuitive, parce qu'à l'époque où j'ai eu mon fils, moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là de parentalité bienveillante, positive, paternage proximal, enfin, bon, bref, j'étais pas du tout là-dedans. Mais il y avait quelque chose qui me disait, non, mais c'est ça, et enfin, sans me forcer, sans théoriser quoi que ce soit, c'était ça. Et quand je vois aujourd'hui à quel point il est, mais autonome, c'est pas qu'il est exceptionnel, hein, juste il est autonome, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est capable de partir en week-end de stage sans aucun problème. C'est plus moi qui ai un problème.
Mon bébé.
Quoi? À partir du vendredi soir au dimanche soir à Lyon? Non mais impossible.
Ouais. Mais si, enfin, si.
Voilà. Et c'est ça en fait. C'est tout ce travail en souterrain, tout ce travail de racine. Aujourd'hui, c'est explosif. Il est réellement explosif. Enfin, franchement, je m'inquiète pas pour lui.
Il est adaptable, en fait.
Mais oui.
Il peut traverser l'existence, en fait, avec sécurité. Parce que il sait d'où il vient, il sait comment il est, il a découvert son fonctionnement, il a pu explorer, tomber, se rattraper, être accompagné dans l'exploration qu'il a pu faire et du coup, nourrir ses compétences, se réassurer dans ses compétences, aller vers la vie.
Et je reste persuadée aussi que le fait de leur donner tout ça au début, eh ben, ça permet ces capacités-là plus tard, en fait. C'est-à-dire que comme s'il y avait une dose minimal à offrir à ses enfants dès qu'ils arrivent, en fait, et pendant un certain nombre de temps, mais c'est le temps nécessaire pour que après ça puisse se déployer. Bon, même s'il y a encore du taf, hein, je dis pas que...
Mais bien sûr.
Je dis pas que on est déjà abouti ou quoi, machin.
Mais toute sa vie, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Le but, c'est pas à 18 ans, on en fait une personne finie.
Oui, non.
Tu vois.
J'aimerais bien, mais bon, ben, je pense que, voilà, il y aura encore du taf et voilà.
Et comme tout le monde, en fait, on a toute la vie pour découvrir, explorer l'existence, évoluer, puis régresser, puis progresser de nouveau, et puis se tromper, et puis se relever. Et puis
en tout cas sur cette notion de confiance en soi chez les enfants. Et c'est vrai que c'était quelque chose aussi que j'avais touché du doigt à l'époque où on vivait à la Martinique, ou à la Martinique, avoir un coutelas, en tout cas, il y a 15 ans, c'était, entre guillemets, assez banal. Bon, nous, en plus, on vivait en milieu un peu forestier, un peu reculé. Bon, ça t'arrive, tu te balades, il y a des fougères arborescentes qui tombent en milieu de chemin et tout. Et en fait, les enfants, ils ont cette habitude de manier, oui, des couteaux, voire des coutelas et tout ça. Et moi, je me disais, waouh, mais c'est chaud et tout. Mais en fait, ils sont nés dans cet environnement-là. Ils sont nés dans ce système-là. Ils ont eu le temps d'observer aussi leurs parents faire comme ça. Et du coup, c'est possible. Au moment où on leur donne cet outil-là, c'est que c'est OK. C'est ça, c'est cette dose de nourriture, encore une fois, de nourriture et d'attention aux racines qu'on va donner, qui va permettre certaines formes d'autonomie pour plus tard.
Et dis-moi si je me trompe, mais un arbre exotique, si tu le mets en Occident, peut-être qu'il va pas faire son système du coup racinaire de manière efficiente. Ça va lui demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Dis-moi si je me trompe.
Alors là, ce qui entre guillemets, ce qui est compliqué dans ta question, c'est que c'est une question de zone aussi climatique.
Voilà.
C'est-à-dire que si tu vas mettre un avocatier à 2000 mètres d'altitude, sous nos climats, c'est clair qu'il va pas pouvoir se développer même au-delà du système racinaire parce que c'est un arbre qui est gélif et voilà, il va pas résister. Maintenant, tu peux créer des serres qui vont être chauffées et tu as des arbres exotiques qui vivent dans certains jardins botaniques notamment qui ont des serres chauffées et du coup, on peut voir certains arbres exotiques. Mais alors là, je suis pas suffisamment experte. Faudrait demander vraiment à ceux qui s'y connaissent le plus. Je ne sais pas s'il va pouvoir vraiment acquérir son plein potentiel parce que le sol, il sera quand même, ça sera pas le même. L'hygrométrie, enfin.
Il y a une histoire. J'en viens encore une fois sur le côté technique, en fait. Notamment sur la parentalité, sur la physiologie, notamment de l'existence, etc. On nous parle beaucoup de physiologie, on nous parle beaucoup de, il faut faire comme ça pour avoir tant, il faut faire du cododo, il faut faire l'allaitement, il faut faire ici, da. Et ce que je sens, c'est que on fait attention à son écosystème personnel, à son histoire, peut-être que, là, tout de suite, le cododo collé serré, peut-être que ça fonctionnera pas par rapport à son écosystème personnel, à son histoire. Et peut-être que on va pouvoir, je sais pas, moi, l'avoir en effet proche de soi, mais différemment, en fait. Donc, c'est des choses comme ça, en fait, que j'ai juste besoin de faire passer comme message aujourd'hui sur ce sujet de la permaculture. En fait, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas d'explication. La permaculture, ce n'est pas de la technique, que ce soit pour la culture des sols, que ce soit pour la relation, pour les relations humaines, que ce soit pour l'interaction entre le vivant, etc. Mais par contre, il y a une notion de est-ce que c'est juste ou c'est pas juste pour telle personne, pour tel écosystème, pour tel vivant, qu'il soit végétal, minéral ou humain ou animal. Et du coup, se poser toujours cette question-là en fait, de est-ce que c'est juste ?
Est-ce que c'est juste ? Et du coup, il y a pas de il faut, quoi.
Voilà.
Déjà, si on commence à partir sur il faut, on va être à côté, quoi. Il y a pas de il faut. C'est qu'est-ce qui t'attire ?
Voilà.
Quand on va faire un design chez les personnes, je vais par exemple leur demander c'est quoi les couleurs qui t'intéressent ? De voir quand tu sors dans ton jardin, c'est quoi le type d'odeur qui t'intéresse. Et je pars pas bien en tête avec des idées d'arbres ou d'arbustes déjà prédéfinis, non. Et c'est en fonction de quelque chose d'un petit peu plus au-dessus, s'il faut hiérarchiser les besoins. Couleur bleue, ok. Et là, je vais aller chercher dans les tons bleus, qu'est-ce qu'il y a comme arbuste, de préférence multifonctionnel, hein, parce qu'une seule chose, plusieurs fonctions.
Donc,
qu'il soit médicinal, utilitaire, éventuellement fertilitaire. Et voilà, il me faut du romarin. Si ça se trouve, l'endroit où cette personne elle est, pour une raison X, le romarin, ça passera pas, et voilà. Et c'est pas grave, il y aura d'autres choses. Ou sinon, on va essayer d'adapter, de jouer avec les microclimats sur le lieu, et la personne qui se disait, il me faut un romarin là, on va réussir à lui faire comprendre que bon, en fait, ton là, regarde, il n'est pas adapté à l'environnement dans lequel tu es. En fait, il sera juste décalé à un autre endroit et ça sera aussi OK. il faut, ça n'existe pas.
Et oui, voilà, quand on est vraiment en interconnexion avec son écosystème, justement, environnant, voilà. On peut du coup se rendre compte que l'intention qu'on a, nous, ne correspond pas forcément en relation avec l'autre. L'autre, c'est du coup la personne avec qui je veux être en relation, c'est le terrain dans lequel je me trouve, c'est éventuellement l'autre en tant que professionnel, en tant que marché. C'est vraiment un ensemble, en fait.
Bien sûr, ouais. Il n'y a pas de « il faut », puis j'avais envie aussi de rajouter, il n'y a pas de... Oui, effectivement, tu l'as déjà dit, mais je réinsiste là-dessus, parce que c'est des questions qu'on me pose assez souvent. Il n'y a pas de recette miracle.
Et oui, voilà.
Et je n'ai pas de recette miracle.
Et oui.
Donc, c'est une réponse qui revient souvent aussi dans la permaculture, c'est « ça dépend ». Est-ce que je peux avoir le péché, je sais pas quoi, comme variété ? Ben, je vais te répondre « ça dépend ». Moi, je suis pas... il faut que je le voie, le terrain, quoi.
Et oui.
Il faut que je voie le lieu. Et du coup, ça me fait le parallèle avec ce que tu disais avant sur... il n'y a pas une parentalité, il y a des parentalités bienveillantes et des parentalités positives. Et effectivement, le cododo, ouais, faut pas se faire des dogmes, ok, ça peut avoir du sens pour certains et pas pour d'autres, quoi. Et vraiment, en priorité, c'est se respecter, quoi. Et c'est réussir à faire des choix en conscience. Et du coup, pour pouvoir faire des choix en conscience, c'est d'avoir pu visualiser un certain nombre de méthodes ou de possibilités ou de techniques qui existent. Et du coup, de se dire, bon... par rapport à ce que j'ai observé de mon terrain, par rapport aux capacités que j'ai, par rapport au temps que j'ai envie et que je peux y mettre, eh ben, je vais en passer par cette technique-là. Et pareil, dernièrement, il y a une âme qui me disait « Ah oui, mais on peut faire venir un tracteur ». Et je lui dis « Mais le problème, c'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait ». Donc pour moi, il n'y a pas d'aberration quand on veut mettre en place un système permaculturel, d'utiliser un tracteur. Si on a réfléchi à la nécessité de ça, est-ce que ça va être un outil qu'on va utiliser de manière pérenne ou juste ponctuelle ? Mais si c'est ponctuel... pour faire en sorte de mettre en place un système qui, après ça, sera vraiment autonome, bah oui, ça peut avoir du sens d'utiliser un tracteur. Ouais, encore une fois, c'est pas l'outil le problème.
On n'est pas dans un dogme de tout ou rien.
Ah mais non.
Et moi, c'est ça qui me semble important aujourd'hui lorsqu'on parle d'une vie permaculturelle, parce que c'est le sujet hein, de notre épisode. C'est vraiment, en fait, de se dire, il n'y aura pas de dogme. C'est pas parce que, je fais de la permaculture. Moi, c'est souvent ça qu'on me parle. Oui, elle est partie faire de la permaculture. D'accord. Mais du coup, en fait, permaculture, c'est une vision. C'est une vibration. C'est une intention. C'est pas une technique. C'est pas parce que je fais des buts que je fais de la permaculture.
Non. Et puis, c'est souvent aussi la phrase, ah oui, je fais de la permaculture dans mon jardin.
Alors, et oui, voilà.
Bon, encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais bon, c'est pas ça, les amis. C'est pas ça.
Et
on n'y est pas, là, en fait.
Et oui.
C'est vraiment repenser nos vies à la base. Déjà, est-ce que t'es heureux dans ta vie? Est-ce que t'es en phase dans ton couple? Parce que le nombre de personnes qu'on rencontre qui, déjà, ils ont pas la même vision de là où ils veulent aller au niveau du terrain.
Oui.
Tu te dis, mais en fait, c'est au-delà du terrain. Il y a autre chose qui se joue. Et ça que j'aime aussi. On accompagne à façonner des systèmes de société qui soient vraiment respectueux, encore une fois, de l'humain et de l'environnement. C'est un tout. Voilà, je ne vais pas juste accompagner un terrain.
Mais c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui on propose avec une vie slow aussi, hein. Et c'est aussi ce qu'on a partagé dans le livre et ce qu'on propose dans les différentes expériences, parce que nous on parle d'expérience. C'est vraiment des expériences aujourd'hui qu'on propose sous un cheminement, en effet. Mais souvent j'ai des gens qui m'appellent... oui, mon enfant n'arrive pas à dormir, ou mon enfant a un problème de comportement, oui, j'ai du mal à faire passer mes idées à mon compagnon, etc. Et c'est vrai que quand on vient partager des expériences avec une vie slow, nos accompagnements, c'est sur l'année. Et bien sûr qu'on va parler de sommeil, mais pour parler de sommeil, on va parler d'alimentation, on va parler de gestion de vie professionnelle, on va parler de gestion du couple, on va parler de gestion relationnelle parent-enfant, enfin voilà. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, bien sûr que le voyant qui s'est allumé, c'est le sommeil. Ou c'est un déséquilibre du terrain, de l'acidité,
Une
maladie de plantes, etc. Ça, c'est quelque chose, ces derniers jours, on est allé visiter comme ça des endroits avec Nicolas. Et c'est vrai que quand on observe le terrain ou l'activité potagère, en fait, du terrain,
On observe aussi les dysfonctionnements relationnels, soit personnels de la personne qui s'en occupe. Et du coup, en fait, le vivant, il met en valeur ce qu'il a besoin de mettre en valeur, en fait. Et ça, pour moi, j'en ai la conviction. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on est en relation avec un enfant, avec un amoureux, une amoureuse, avec un collaborateur professionnel. Ça met juste en avant, en valeur, ce qui a besoin d'être mis en valeur pour pouvoir retrouver l'équilibre, encore une fois, retrouver cette justesse et cette co-création avec l'existence. Parce que pour moi, finalement, permaculture, aujourd'hui, c'est juste co-création avec l'existant, en fait, hein, avec ce souffle de vie, quoi.
On peut pas faire sans. La façon dont j'ai pu apprendre aussi, c'est que j'ai pu avoir l'espace de me poser assez rapidement sur ce fameux terrain, là, dans le Var, et d'observer juste ce qui se passait à côté de moi dans la forêt qu'on avait juste à côté. On peut pas faire sans les systèmes naturels, on peut pas faire sans ce qui est de notre nature, on peut pas faire sans ce qui est de notre physiologie.
Ouais.
Enfin, on peut pas. Alors oui, en allant de plus en plus vers de l'hyper-technologie,
voilà,
qui fait qu'on va se suradapter à quelque chose.
Et qu'on va surtout utiliser énormément de ressources finies, en fait. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les ressources naturelles, en fait, ont un début, un milieu et une fin. Elles sont abondantes parce que... sympa.
Oui, mais elles sont pas infinies.
C'est ça.
Mais même notre propre vie, elle est pas infinie.
Mais bien
enfin,
sûr.
Même si certains aimeraient bien, mais à un moment donné, il y a un début et une fin. En fait, c'est une fin, c'est des points de suspension.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales, cette façon de croire que c'est infini, que c'est là, que c'est disponible, qu'on prend, qu'il n'y a rien à redonner, qu'on ne fait pas partie d'un cycle, que ça ne s'alimente pas, ça, que ça vient de... c'est par magie ou quoi. Oui, on est hors sol,
voilà.
On est déconnecté. Et à un moment donné, on se prend des murs. Des fois, c'est tristement qu'on se prend des murs, mais on vient des forêts et des savanes arborées. Donc à un moment donné, il faut y retourner. Et là, j'accepte d'employer le mot « il faut ».
Mais parce que...
On y retourne, quoi.
Il y a ce côté de non-choix, hein.
C'est ce qui se passe, hein. Aujourd'hui, le nombre d'articles qui disent « ah oui, alors on organise des sorties, enfants, reconnexion avec la nature ». Enfin bon, ils ont pas besoin d'organiser une sortie, hein. Juste vous les emmenez en forêt, ils se reconnectent tout ça.
Tout
ils
seul,
ont pas
oui.
besoin d'éducateurs pour ça. Mais bon, bref, c'est très bien. C'est très bien que ça existe. Et en même temps...
On est hors sol.
On est hors sol. Pourquoi il y a besoin de ça? De mettre autant d'énergie pour ça? C'est parce qu'on a mis tout ça hors de nous. On a mis tout ça hors de nos villes, hors de nos cités. Redonnons la place aux vivants, à ce qui nous alimente, même au sein de plus ou moins grandes villes. Et on verra qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'apaiser.
Aujourd'hui, pour toi, si tu devais définir en quelques mots cet échange, une vie permaculturelle pour nos auditeurs, quels seraient les points d'attention pour faire une sorte de synthèse, un point d'attention pour commencer à se mettre en mouvement?
Je crois que je vais répéter l'observation neutre. C'est qu'à un moment donné, on se pose, on s'arrête et vraiment, c'est un exercice, hein. Juste on observe et après on voit.
On laisse être plutôt que lâcher prise.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas, je dirais pas que c'est dans du lâcher prise, effectivement. On laisse être les choses et on vient jouer avec tout ça, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvaine, pour ce moment plein d'enseignements. Vraiment, merci beaucoup. On vous retrouve dans l'after des podcasts d'Une Vie Slow, samedi 29 août à 17h, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et oui, chers auditeurs, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent à ce moment privilégié avec notre invité. Durant 1h30, je serai à ses côtés pour partager vos questionnements, vos réussites et vous encourager à vivre vos prises de conscience et les incarner. Rendez-vous en description, juste en dessous, ou sur notre site www.unvislow.fr. Notre site, c'est aussi le lieu où nous vous proposons des accompagnements pour vous aider à vivre votre vie slow. Nos podcasts vous inspirent et vous donnent de l'élan. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, partagez-les autour de vous, dites-le sur les réseaux sociaux de nos invités et ou les nôtres, c'est ce qui nous aide le plus. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous souhaite une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations. Une vie slow. Salut !